3 degrés, hein,
pas
Grégory
très chaud, en effet.
Bonne journée à tous, merci d'être avec nous, il est 9h10.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, merci de votre fidélité. Comme tous les jours, RFI vous donne la parole. Dans un instant, ce sont vos questions à la rédaction. C'est ce rendez-vous privilégié auquel vous avez droit tous les jours. Rendez-vous avec les journalistes d'RFI. Vous souhaitez nous poser des questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Eh bien, vous nous appelez et nos experts ici au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde prennent le temps de vous répondre et de vous éclairer davantage sur les grands sujet qui vous interpelle et qui vous intéresse. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Vous n'oubliez pas également de nous envoyer vos questions par courrier électronique appel au pluriel.actu@rfi.fr sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler. Et puis dans 30 minutes, nous parlerons ensemble de la place des langues nationales sur le continent africain. Comment cohabitent le français et les langues locales? On en parle car au Sénégal, depuis quelques jours, les députés ont désormais la possibilité de s'exprimer à l'Assemblée nationale, soit en français, ce qui était le cas jusqu'à présent, puisque le français est la langue officielle, soit désormais dans leur langue maternelle. L'initiative vise évidemment à promouvoir les langues locales. Alors qu'en est-il dans votre pays? Quelle place occupent les langues maternelles dans votre vie quotidienne? Comment faites-vous finalement tous les jours pour jongler entre le français et les différentes langues nationales du pays? 33 9 693 693 70, vous êtes nombreux à souhaiter témoigner et surtout à commenter l'initiative donc de l'Assemblée nationale. Sénégalaise. Vos questions d'abord, comme promis, Nicolas Champeau du service Afrique nous rejoint à l'instant. Bonjour Nicolas.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, on vous a demandé de venir car nous avons une question concernant le Burkina Faso. Vous étiez l'un des envoyés spéciaux des RFI sur place il y a encore quelques jours. Patrice, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Brazzaville au Congo, on vous écoute.
Oui, Juan, jeudi dernier, le Premier ministre burkinabé a annoncé la réouverture du dossier Thomas Sankara. Il semble que la question a été favorablement accueillie dans les populations. Que vous en semble, Juan, pour un gouvernement de transition, serait-ce vraiment une priorité? C'est ma question.
Eh bien, surtout, ne raccrochez pas. Nicolas Champeau, tous les dossiers en suspens seront rouverts, a déclaré en conférence de presse donc le Premier ministre. L'idée, c'est de faire la lumière sur plusieurs affaires qui ont entaché l'air Compaoré. Patrice parlait à l'instant du dossier Thomas Sankara, mais le Premier ministre a également cité un autre dossier, celui du journaliste d'investigation Norbert Zongo, qui a été assassiné en 98 alors qu'il enquêtait sur la mort du chauffeur, d'un des chauffeurs du président déchu, Blaise Compaoré. Est-ce une priorité pour un gouvernement de transition d'ouvrir de tels dossiers, et notamment celui de Thomas Sankara?
En tout cas, les autorités de la transition ont un grand intérêt à rouvrir ces dossiers. En revanche, la façon dont elles comptent s'y prendre au niveau des actes concrets et de la procédure, pour l'heure, l'est beaucoup moins. La réouverture de l'enquête sur le chef d'État défunt correspond, vous l'avez dit, Patrice, aux fortes attentes des Burkinabés. En premier lieu, des membres de la société civile et des jeunes qui ont battu le pavé pour renverser Blaise Compaoré. Ils étaient non seulement animé par l'idéal révolutionnaire de Sankara, et aussi surtout presque le mystère qui entoure les circonstances de sa mort, le fait qu'aucune enquête n'ait été menée durant des années, alors que de nombreux Burkinabés soupçonnent Blaise Compaoré d'être derrière l'assassinat du capitaine, et bien symbolisait un petit peu à leurs yeux un déni de justice inacceptable, et de façon plus globale un système qui garantissait l'impunité de la classe dirigeante, parce que vous l'avez dit Juan, il n'y avait pas que Thomas Sankara. Cette impression était aussi alimentée par le mystère autour de la mort de Norbert Zongo, qui enquêtait sur la mort du garde du corps du frère du président Blaise Compaoré, donc du le chauffeur de François Compaoré, le frère de Blaise Compaoré, donc il n'a pas non plus été inquiété par la justice. Donc les autorités de la transition ont compris qu'il y avait un intérêt pour elle à ouvrir ces dossiers. C'est une façon de rompre avec l'ancien système, alors que le parcours des autorités de certains leaders des autorités de transition n'incarne pas vraiment la rupture, puisque le premier ministre Isaac Zida était numéro 2 du régiment de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré. Mais vous l'avez bien relevé, Patrice, Isaac Zida a été ovationné jeudi lorsqu'il a promis qu'une enquête serait ouverte sur la mort de Sankara, et que si nécessaire, le Burkina pourrait aller jusqu'à demander au Maroc d'extrader Blaise Compaoré. De la même manière, Michel Cafondo, le président de la transition, a été ovationné lors de son discours de la passation des charges au palais des sports de Ouagadougou, lorsqu'il a dit qu'il autorisait l'exhumation de la dépouille de Thomas Sankara au cimetière de Dagouin.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'à l'heure actuelle, on n'a aucune certitude, on ne sait pas si cette tombe qu'on nous présente comme étant celle de l'ancien président Sankara est effectivement la sienne. Un petit mot, c'est vrai que le Premier ministre a dit on n'hésitera pas, en cas de plainte, à demander au Maroc l'extradition de Blaise Compaoré. Faut quand même préciser que quelques jours plus tard, chez nos confrères de France 24, Michel Cafondo a dit, bon, ce n'est pas une urgence, ce n'est pas une priorité, cette extradition. Quelle va être la procédure maintenant pour dans le cas de l'ouverture de toutes ces différentes affaires?
Oui, on voit bien que Michel Cafondo freine un peu, parce que c'est les annonces, c'est facile de faire des annonces lors de grands meetings et de soulever des ovations, mais lorsqu'il s'agit de passer au concret, c'est un petit peu plus compliqué. Or, c'est ce qu'exige la famille de Thomas Sankara, parce que le mystère, le fait de ne rien savoir sur sa mort et même sur le lieu de sa dépouille l'empêche de faire son deuil. Elle demande des actes. Or, la ministre de la Justice, Joséphine Ouédraogo, nous a dit cette semaine qu'elle n'avait pas de date, par exemple, pour l'exhumation de la dépouille de Sankara, censée permettre de vérifier que c'est bien son corps qui repose dans ce cimetière. Et on ne sait pas non plus s'il reviendra aux juridictions de droit commun ou aux juridictions militaires de prendre en charge le dossier. Pour rappel, les avocats de Myriam Sankara, la veuve de Thomas Sankara, avaient déposé en 1997 une plainte pour assassinat contre X. 3 ans plus tard, la Cour suprême avait estimé que les juridictions militaires étaient compétentes, dans la mesure où Thomas Sankara avait été tué au Conseil de l'Entente, et la Cour suprême avait dit c'est une enceinte militaire. Mais les ministres de la Défense de l'époque n'ont jamais donné l'ordre pour qu'une procédure puisse être enclenchée. Alors, si l'option militaire devait être privilégiée, il reviendra au Premier ministre Isaac Zida de saisir la justice militaire, car il est en charge également du portefeuille de la Défense.
À suivre, en tout cas, mon petit doigt me dit qu'on en parlera demain dans la Libre Antenne. Je jette un coup d'œil sur la page Facebook de l'émission, et ce sujet, incontestablement, suscite de nombreuses réactions. Merci Nicolas Champeau. Patrice, merci de nous avoir appelés. On vous souhaite une bonne journée à Brazzaville. Il est 9h18 à Paris. D'autres questions? Safou, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Libreville, au Gabon. On vous écoute. Vous avez une question concernant la visite du pape la semaine dernière au Parlement. Je tiens à m'excuser, Safou, et je m'excuse également à Antoine-Marie Isoar, qui va nous rejoindre dans un instant, qui est le correspondant des RFI au Vatican. C'est vrai qu'on vous a déjà prévu cette semaine, et malheureusement, faute de temps, on a dû vous reporter. Et voilà, c'est comme ça, malheureusement, on est tributaire du direct. La visite du pape à Strasbourg ne vous a pas laissé indifférent. Vous avez des questions?
Ok, Juan, j'ai deux questions à propos de la récente visite du pape au Parlement européen à Strasbourg. Ouais. La toute première est celle de savoir qu'est-ce qui a motivé ce déplacement du pape. Et la deuxième est celle de savoir est-ce que ce discours tenu par le pape au Parlement européen va changer la politique migratoire des pays européens.
Ah, la politique migratoire de l'Europe, c'est vrai que c'était l'un des sujets abordés lors de ce discours. Antoine-Marie Isoar, bonjour.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant des RFI au Vatican. Alors, parmi les nombreux sujets évoqués effectivement par le pape François au Parlement à Strasbourg, il a été question de l'immigration. On ne peut pas tolérer que la Méditerranée devienne un grand cimetière, a-t-il dit. Qu'est-ce qui motive d'abord cette visite?
Bah écoutez, avant d'aller dans un pays d'Europe, c'est-à-dire que le pape a voulu, au bout de 18 mois de pontificat, absolument faire ce très très bref voyage pour s'adresser à tout le continent. Alors comme chef de l'Église catholique, hein, pas comme chef d'État, comme leader moral, si vous voulez, d'une certaine façon. Et il a voulu lui dire ces quatre vérités, vous êtes ou tuez un continent fatigué, c'est une des choses qu'on a entendues, une institution dépassée, vieillie, il te faut retrouver ton âme, Europe, où est ta vigueur. C'est l'un des appels qu'a lancé le pape François devant les députés, les eurodéputés au Parlement européen. Le pape qui a aussi appelé, Juan, à ce que l'Europe retrouve son patrimoine, ses racines. Alors évidemment, derrière, on pense aux racine chrétienne, pour qu'elle retrouve son âme, et puis l'idéal européen. C'est un bref voyage, vous aurez noté d'ailleurs, pour la petite histoire, parce que ça nous concerne un peu, en France au moins, que le pape est passé par le territoire français, mais très 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 brièvement, de là jusqu'à vexer parfois quelques catholiques, mais pas tant que ça, mais enfin qui ont compris l'objectif du pape, qui n'était que de se rendre aux institutions européennes pendant, 3h30 maximum qu'a duré la visite sur le sol français.
Ouais, ça a été effectivement souligné. Les hommes et les femmes qui arrivent par bateau, ont besoin d'accueil et d'aide. Référence évidemment aux centaines de milliers d'immigrés qui traversent la Méditerranée en espérant pouvoir vivre en Europe. Comment ces propos ont-ils été perçus par les députés européens ? Et est-ce que ces déclarations finalement peuvent avoir un impact sur les politiques migratoires européennes ?
Moi, je suis mal placé, Juan, évidemment, pour dire comment elles ont été reçues à Strasbourg. Malgré tout, ce que je pense, c'est qu'elles n'ont pas d'impact si elles ne sont pas réellement entendues. C'est-à-dire que le pape, vous l'avez dit, il a dit la Méditerranée ne peut pas devenir, on ne peut pas tolérer qu'elle devienne un grand cimetière. Il a été ovationné, d'ailleurs, à droite comme à gauche. Mais en même temps, il reste, je vous l'ai dit tout à l'heure, un leader moral, sans aucun pouvoir, sans aucune armée, sans législation. Il ne peut que prononcer de belles paroles, très belles d'ailleurs, et certains l'accusent même de provoquer l'effet inverse. Alors je m'explique un petit peu. Le pape, il y a un an et demi de ça, au tout début de son pontificat, se rend à Lampedusa, c'est à l'extrême sud de la péninsule italienne, et c'était la toute première visite hors du Vatican, hors de Rome, du pape François au début de son pontificat, le pape qui semblait révolutionner un peu la planète et l'Église d'abord, et il a pris la parole très fortement contre les passeurs, qui exploitent les migrants, et puis demandait est-ce que l'Europe ouvre ses portes, exactement comme il vient de le faire au Parlement. Sauf que certains ont jugé, ici en Italie, que ces propos avaient encouragé les migrants. Alors évidemment, tout ça est à travailler, je n'en sais rien, moi, personnellement, mais voilà, les paroles du pape sont très encourageantes, mais il faut une vraie politique migratoire. Et vous savez qu'ici, en Italie, en particulier, qui est en première ligne, il y a la transition entre deux systèmes de protection et d'accueil des immigrés, entre autres sur la mer Méditerranée.
En tout cas, le commissaire européen aux migrations et aux affaires intérieures a promis, mais ça reste une promesse, de tout faire pour relayer l'appel du pape François. Merci Antoine, Marie Zohar en direct du Vatican. Safou, bonne journée à Libreville, 33 9 693 693 70. Ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Mohamed, bonjour.
Bonjour Juan, et bonjour à tous les auditeurs de RFI à Parakou et à travers le monde.
Parakou, au nord du Bénin, vous nous appelez de Parakou ?
Oui.
Ah d'accord.
Je suis à Parakou.
Très bien, on est ravis de vous avoir. Vous avez des questions, vous, sur la Thaïlande ? Vous avez appris qu'il y avait eu récemment des manifestations d'étudiants, c'est ça ?
Oui. Depuis quelques semaines, j'ai suivi à travers l'actualité les manifestations qui paralysent la Thaïlande. Et je voudrais savoir qui sont les manifestants et surtout, quels sont les codes exacts de leurs revendications.
Des manifestations et des interpellations. D'ailleurs, l'ONU s'est émue la semaine dernière des interpellations de jeunes opposants. Bonjour Yelena Tomic.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre. Effectivement, des jeunes manifestent. On rappelle qu'il y a eu un coup d'État il y a 6 mois, que les militaires ont suspendu la Constitution, imposé la loi martiale, largement limité les libertés civiles. Et les étudiants aujourd'hui manifestent. Ils ont manifesté ces derniers jours. Pour quelles raisons ? Et racontez-nous ce qui se passe et qu'est-ce qui motive finalement à manifester.
Alors en fait, les manifestations dont on parle se sont passées dans le nord-est du pays. C'est la région de Khon Kaen. C'est une région qui est considérée comme le bastion des chemises rouges, qui sont dans l'opposition aujourd'hui. Et le général Prayut, c'est le chef de la junte, qui est devenu en août dernier le premier ministre, s'y est rendu donc pour tenir un discours. Et c'était sa première visite dans cette région. L'incident s'est produit lorsqu'un petit groupe d'étudiants en droit a décidé de perturber ce discours du chef de la junte. Dans un acte de défiance, les jeunes ont surgi devant la tribune. Ils ont tendu le bras avec le pouce et l'auriculaire replié et les trois autres doigts tendus. Alors vous vous demandez peut-être ce que c'est. C'est le salut, c'est un symbole en Thaïlande. C'est devenu un symbole ces derniers mois. Et il représente la résistance contre la junte. Et c'est inspiré d'un film, en fait, un film de science-fiction, The Hunger Games, dans lequel il est utilisé comme un signe de rébellion contre un pouvoir autoritaire. Évidemment, les étudiants ont immédiatement été arrêtés par les services de sécurité, placés en détention dans un camp de l'armée, mais quelques heures plus tard, ils ont été relâchés. Le général Prayut aurait déclaré après leur arrestation, est-ce que quelqu'un d'autre veut protester? Ce qu'on peut vraiment interpréter
comme une menace, non?
Exactement. En tout cas, la police thaïlandaise a tenu à souligner qu'aucune charge n'avait été retenue contre eux. Ce que l'on sait encore, c'est que ces étudiants font partie d'un groupe de militants appelé Daodin, qui militent en fait pour la démocratie et la liberté d'expression.
En tout cas, je le disais tout à l'heure, la communauté internationale, les Nations Unies, même de nombreuses ONG se sont émues, elles se sont alarmées de la dégradation générale des droits de l'homme en Thaïlande. C'est un incident finalement qui est loin d'être isolé.
Absolument, depuis l'arrivée de la junte, il y a exactement 6 mois, on note, vous l'avez dit, une détérioration des droits de l'homme et particulièrement de la liberté d'expression. La FIDH, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, s'est inquiétée, par exemple, de la chasse aux sorcières, hein, lancée contre toutes les personnes et qui osent critiquer le régime militaire. Dans cette situation où les militaires détiennent le pouvoir absolu, tout est verrouillé, les médias sont censurés, les manifestations, activités politiques sont interdites. Bref, il y a la situation va se dégradant et la répression s'accentue.
Merci beaucoup, Yelena Tomic. Mohamed, j'espère qu'on a répondu à votre question, que vous êtes comblé. Merci de nous avoir appelé. Nous allons à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Monsieur Juan et bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Une question sur le Front National en France.
Oui, exactement. Alors, selon le site Mediapart, nous savons que le Front National a contracté un prêt de 40 millions d'euros auprès d'une banque russe. Alors, pour cela, j'ai deux questions. Pourquoi le Front National a-t-il recours au financement d'une banque étrangère? Ça, c'est la première question.
Alors, on va essayer d'y répondre avec Béatrice Giblin, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On vous doit plusieurs ouvrages sur l'extrême droite, notamment l'extrême droite en Europe, publié aux éditions La Découverte, mais vous êtes sinon directrice de la revue de géopolitique Hérodote et professeur à l'Institut français de géopolitique. L'auditeur fait référence effectivement à cette information communiquée par Mediapart, nos confrères du site d'information en ligne, qui parlait de 40 millions d'euros. Ce qu'il faut préciser d'abord, c'est que le Front National reconnaît effectivement un emprunt, mais simplement de 9,5 millions d'euros, hein.
Il a touché pour l'instant 9,5 millions d'euros, ce qui ne veut pas dire qu'il ne touchera pas le reste. 40 millions, c'est sans doute un prêt sur plusieurs années. Donc pour le moment, il a touché et il le reconnaît 9,5 millions.
Alors pourquoi aller en Russie pour demander un prêt et non pas se contenter des banques françaises?
D'abord parce que les banques françaises n'ont peut-être pas prêté. Le fait maintenant que les partis soient financés par l'État, puisque c'est un gros changement qui a eu lieu d'ailleurs par la volonté de la gauche il y a déjà quelques années, ont sans doute moins besoin de recourir aux prêts. Et les banques françaises qui voudraient pas sans doute abîmer une image en prêtant aux uns aux autres d'ailleurs, n'ont sans doute pas prêté au Front National. Alors, ils auraient pu aussi emprunter à Londres, où on sait que l'argent est tout à fait plus ou moins facile à trouver. Bon, mais
enfin, ce que dit Marine Le Pen, c'est qu'elle a demandé des prêts à des banques en Espagne, en Italie, aux États-Unis, en Asie, en Russie, et finalement, c'est que la banque russe qui a répondu favorablement.
On n'a pas la preuve.
Je dis, c'est ce qu'elle affirme, en tout cas.
Voilà. Parce qu'on a aussi en Europe des gouvernements qui sont dans des coalitions dans lesquelles il y a de l'extrême droite. Donc on pourrait penser que ça aurait pu être possible.
Mais en même temps, ça n'a rien...
Attendez, compte tenu de son discours très hostile à l'Europe, il est possible qu'elle ait été tout à fait volontaire et d'aller chercher de l'argent en Russie. Et qu'en Russie, où on est tout aussi hostile à l'Europe pour le moment, tout au moins le gouvernement de Vladimir Poutine, on a été très content de le lui prêter.
Ça n'a rien dit.
Avec un taux d'intérêt qui est pas faible, hein.
6%. 6%, effectivement.
6%. C'est un taux élevé.
Un taux élevé, mais enfin, c'est pas un taux préférentiel. Mais en même temps, demander de l'argent en quelques secondes, hein, Béatrice Giblin, je suis désolé, on arrive à la fin. Ça n'a rien d'illégal d'emprunter de l'argent.
Ce n'est absolument pas illégal.
Oui.
Ce n'est absolument pas illégal. Là où le Parlement européen commence un petit peu à trouver les choses bizarres, c'est les 150 000 euros de commission qu'a touché le député européen qui a servi d'intermédiaire pour ce prix et qu'il n'aurait pas clairement déclaré. Ah. Donc là, le Parlement européen décide de faire une enquête.
Merci Béatrice Gibelin d'avoir été avec nous quelques instants. Merci à Olivier qui nous appelait d'Abidjan. D'autres questions à la rédaction, évidemment, demain. Restez avec nous dans 10 minutes. Notre débat sur les langues nationales sur le continent africain, la cohabitation entre le français et vos langues maternelles. À tout de suite.